Dieu notre Père, nous voici présents pour méditer ensemble ta parole. Nous avons besoin de ton intelligence, nous avons besoin du Saint-Esprit, nous avons besoin que tu ouvres notre entendement pour capter ta pensée dans ces écrits de Paul, Seigneur.
Amen.
Et pour tout tes bienfaits, toute la journée, partout où nous avons été, nous avons reçu ta garde et ta protection. Et ce soir, avant de dormir, nous voudrons nous tourner vers ta parole. Nous avons chacun et chacune médité seul, mais ensemble, nous voulons nous édifier. Nous nous recommandons à ta grâce, Seigneur, et utilise ton Fils qui a la direction de nous conduire. Et nous qui sommes là et tous ceux qui vont se joindre à nous, nous avons réellement besoin de que tu nous guides, Seigneur. Béni sois-tu pour toutes choses que tu vas faire. Et dans le beau et précieux nom de Jésus, nous te bénissons ainsi. Amen.
Amen. Amen. Merci, Papa Célé, pour la prière. Nous allons écouter la lecture de la parole du Seigneur ce soir, Romains chapitre 8, à partir du verset 18 jusqu'au 30e verset. Sœur Louboula.
Je vais lire dans la version Louis II. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauront être comparées à la gloire à venir qui sera révélée par nous. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que, jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'entendons avec persévérance. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Parole de l'Éternel.
Merci, ma sœur, pour la lecture. Frères et sœurs, notre monde dans lequel nous nous situons, c'est un monde qui a été souillé par le péché. Et dans ce monde, il y règne l'injustice, il y règne aussi la souffrance et la peur, la crainte, il y a beaucoup de vices, au point que lorsque nous lisons l'Épître aux Hébreux, il est dit, l'auteur dit que le péché nous enveloppe si facilement. Et à cause du péché de l'homme, Dieu a soumis toute la création à la vanité et à la corruption. Nous l'avons lu dans le verset 20 et 21, mais aussi à cause de tout cela, nous apprenons que c'est pas seulement l'homme, c'est pas seulement le chrétien, Mais toute la création physique, on peut voir dans cette création physique tout ce qui est palpable, tout ce que nous connaissons, tout ce que nous touchons, plantes, animaux, la terre elle-même, etc. Tout est soumis à cette vanité, mais tout soupire, tout souffre, parce que le Seigneur a aussi préparé une espérance non seulement pour nous, les chrétiens, mais aussi une espérance pour toute sa création. C'est pour cela, aujourd'hui, le Seigneur vient à notre rencontre, il vient nous rappeler, parce qu'il est possible qu'en ce moment ici, ce qui est vrai, c'est que nous soupirons de différentes manières et à des différents niveaux. Il y en a qui souffrent beaucoup plus que d'autres. Il y en a qui souffrent dans un domaine, alors que dans un autre, ils sont beaucoup plus heureux. Et la Bible ne nie pas, ne méprise pas ou ne minimise pas la souffrance. Et Dieu nous rejoint dans notre souffrance pour nous inviter à regarder par-delà cette souffrance afin de voir la glorieuse espérance, l'attente ou cette préparation qu'il a en vue pour ceux et celles qui lui font confiance. Nous allons voir aussi dans certains textes, par exemple le verset 23, qui nous parle déjà que nous attendons l'adoption, nous attendons la rédemption de notre corps. C'est un peu une sorte de, on dirait, dichotomie, parce que nous sommes déjà rachetés, mais la Bible nous dit que nous attendons encore cette rédemption. En d'autres termes, c'est comme si le Seigneur dit, vous l'avez acquis par la foi, et cette rédemption sera complète lorsque Jésus va revenir. Donc, on trouve cette sorte de dichotomie au niveau de la justice, au niveau de la rédemption, etc. Donc, nous allons voir au travers de notre texte aujourd'hui que le Seigneur nous amène, en fait, il veut que nous quittions des yeux notre souffrance, notre douleur, pour regarder par-delà cette difficulté et saisir cette espérance qui nous amène évidemment dans la gloire à venir que le Seigneur réserve pour son peuple que nous sommes. Voilà, en guise d'introduction, pour pouvoir partager ce texte de 12 ou 13 versets, ce qu'on va faire, la manière qu'on va peut-être le partager, il n'y a pas beaucoup de versets, mais il y a vraiment une profondeur de message. Nous pouvons y aller un verset à la fois. Une fois que nous aurons partagé un texte, un verset, une phrase, nous pouvons passer au verset qui va suivre. J'espère que le plus possible de frères et sœurs peuvent partager ce que le Seigneur leur met à cœur. Vous savez que les sujets de la douleur, la souffrance, est quelque chose qui vous touche de près. Si vous avez quelque chose à dire, un réconfort à apporter de la part du Seigneur au peuple de Dieu, veuillez ne pas le garder, frères et sœurs, mais partageons ensemble afin de nous édifier dans notre foi commune. Voilà. Pour l'introduction, ma liste ne me montre pas de nouvelles personnes. Alors nous pouvons partager la parole du Seigneur. Je me rappelle encore, nous avons besoin que chacun partage pour 2 minutes. Et si vous avez besoin d'en dire encore plus, si vous avez encore plus de choses à partager, revenez encore en levant votre main et la parole vous sera donnée. Voilà, frères et sœurs, nous sommes prêts pour le partage. Papa Célé, Maman Christine, vous avez la parole.
Oui, merci beaucoup pour la parole, Papa José. Les tout premiers versets, donc le verset 18, nous montrent bien sûr que dans ce monde, nous aurons des souffrances, nous aurons des accidents, nous aurons des maladies, nous aurons toutes sortes de difficultés. Mais ça n'a rien à voir avec la gloire que nous aurons auprès du Père quand nous serons avec lui. Ce verset me rappelle ce que Paul a dit aux Corinthiens, à 1 Corinthiens 15-19. C'est le verset que nous avons mis dans notre église comme le verset à mémoriser pendant le mois d'avril. Que si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Ça signifie que si, quand nous regardons le bien de ce monde et nous nous disons que nous sommes suffisants et nous négligeons les réalités spirituelles, nous sommes réellement les plus malheureux. Voilà, la gloire à venir est plus importante de ce que le Seigneur attend de chacun et de chacune d'entre nous. C'est très grand par rapport aux réalités spirituelles que nous devons avoir dans ce monde ici, même dans le monde à venir. Amen.
Amen. Merci, Papa Célé. Je voudrais aussi dire que lorsque Paul écrivait aux Éphésiens, il leur disait qu'il priait pour eux, demandant que Dieu leur donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de leur cœur afin qu'ils sachent quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. J'arrime ça avec ce que Papa Célé vient de dire. Lorsque nous perdons de vue ce que le Seigneur prépare ou a déjà préparé pour son peuple, lorsque nous perdons de vue l'espérance qui s'attache à l'appel de Dieu, lorsque nous perdons de vue cette gloire à venir, c'est alors que nous nous décourageons, c'est alors que nous abandonnons, c'est alors que même les souffrances du temps présent paraissent beaucoup plus lourdes encore et nous désespérons. Mais lorsque nos regards sont tournés, sont conviés à se tourner vers cette gloire à venir, lorsque nous réalisons que il y a une espérance qui s'attache à l'appel de Dieu. Nous avons été appelés de Dieu en vue de cette espérance-là. Lorsque nous la perdons de vue, c'est alors que nous nous décourageons, c'est alors que nous abandonnons, c'est alors que nous nous accrochons à ce qui est passager. Mais lorsque nos regards sont ainsi saisis par le Saint-Esprit, on le verra encore dans la suite du texte, nous pouvons, malgré la douleur, la souffrance, la maladie, l'accident, nous pouvons encore tenir ferme et dire oui, la route peut encore être longue, mais le Seigneur est avec nous, nous continuerons la marche. Merci encore, Papa Célé, pour le commentaire. Le verset 19, nous parle ici, au fait, c'est à cause de l'homme que Dieu avait maudit la terre. Dieu avait dit, au soir même du péché, aussitôt que l'homme a désobéi à Dieu, Dieu a dit que la terre va maintenant produire des épines, des ronces, des escarboucles. La terre va être maintenant difficile, elle va être dure pour l'homme, et Dieu va ajouter, et c'est à la sueur de ton front que tu en tireras ta nourriture. Et à partir de ce temps, la création a été soumise, comme on l'a vu, à la vanité, la corruption, la méchanceté est entrée dans le monde, et la création matérielle, physique, a commencé à souffrir, soupirer aussi. Mais ce qui est intéressant ici, c'est de voir au verset 20 qu'elle-même aussi, elle attend aussi cette révélation des enfants de Dieu, cette gloire à venir pour y participer aussi. Quelle joie de savoir que ce n'est pas seulement le chrétien qui va jouir de cette rédemption seule, mais c'est aussi toute la création renouvelée qui va aussi bénéficier, qui va participer aussi à la gloire à venir pour les enfants de Dieu. Voilà encore un sujet de joie, frères et sœurs, pour nous qui avons accepté Christ, qui attendons en tout cas cette glorification à venir. Je nous rappelle que notre méditation ce soir vient aussi avec deux questions. La première, est-ce que ce texte m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit? Et la question numéro 7, quelle est la vérité que Dieu me révèle? Alors, lorsque nous parlons, essayons le plus possible de répondre aussi à ces deux questions. Au besoin même, nous pouvons aussi ajouter quel est le verset qui me touche le plus? Quelle est la parole ou quel est le texte, la phrase, le mot qui me touche le plus et pourquoi? Voilà, frères et sœurs, ça nous aiderait effectivement à partager, même dans une phrase, dans deux, trois, une minute, deux, trois, pas trois en tout cas, mais deux, et, afin que nous puissions nous édifier les uns les autres. Alors, pendant que vous y réfléchissez encore, je reviens avec au fait l'idée qui a commencé au verset 19 jusqu'au verset 21. C'est cette idée de toute la création qui attend à regarder comment le Saint-Esprit, inspirant Paul, dit la création attend avec un ardent désir. En d'autres termes, on dirait qu'elle a hâte, elle aussi, de voir la révélation des fils de Dieu. C'est une révélation glorieuse parce que lorsque le Seigneur révèle ainsi, ce n'est pas quelque chose qui va se passer en privé, c'est quelque chose qui va se passer de manière publique, de manière glorieuse. Et honnêtement, la manière que le Seigneur en parle ici, ça me donne envie. Nous avons hâte, en tout cas, d'être là en ce jour-là, mais être là du bon côté. Et on dit, car toute la création a été soumise à la vanité, c'est vrai, ce n'est pas elle qui avait péché, non de son propre gré, mais c'est à cause de celui qui l'y a soumise, mais avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption. Quel bonheur de savoir que le monde, la corruption, la pollution et tout ce que nous avons entraîné dans ce monde par notre désobéissance, Dieu a prévu qu'un jour tout cela aura fin. Tout cela, le Seigneur va y mettre fin et la création, nous vivrons au fait la réalité qu'Adam et Ève avaient connue avant la chute. Et j'aimerais, en tout cas, je suis curieux de savoir qu'est-ce qui va se passer, comment ce monde était. Comment on peut vivre, comment on peut aller, par exemple, dans la nature sans épines, parce que les épines sont la conséquence de la désobéissance. Mais à ce moment-là, lorsqu'il y a la rédemption, comment on peut vivre en forêt sans ronces, sans escarboucles, etc. En tout cas, c'est une révélation que la création attend et qui est aussi notre propre l'eau. Papa Céline, maman Christine, vous avez encore la parole.
Oui, merci encore pour la parole, Papa José. Le verset 23 complète en fait les idées que vous êtes en train d'avancer. Parce que dans la version parole vivante, il dit qu'ils ne sont pas les seuls. Donc nous aussi, nous soupirons au plus profond de nous-mêmes et nous vivons dans une certaine tension. Car nous avons seulement reçu l'Esprit divin comme un acompte. Donc, toute la création entière attend la véritable délivrance. Et nous pensons que cette délivrance, chacun peut la vivre seul quand il quitte ce monde pour rencontrer le Seigneur. Mais aussi, nous attendons le retour du Seigneur. Tout cela Ah, on nous dit que, mais l'esprit que nous avons déjà reçu, l'esprit de Dieu que nous avons déjà reçu, ce n'est qu'un acompte des réalités que nous vivrons pleinement quand nous serons avec Dieu. Et le commentateur de cette version, Parole vivante, nous dit que le Saint-Esprit que nous avons déjà reçu, ce n'est qu'un avant-goût de la gloire future que nous aurons pleinement quand nous vivrons pleinement avec Dieu. Donc la libération, la délivrance, la réalité de la véritable vie que nous vivrons avec Dieu, tout cela nous montre que ce n'est pas des choses, des choses que nous ne pouvons pas penser que ça arrivera. Non, ça arrivera réellement. La véritable vie avec Dieu, nous la vivrons quand nous serons avec lui. Mais le Saint-Esprit que nous avons aujourd'hui, qui nous révèle des choses, qui nous enseigne comment prier, nous allons le voir un peu plus, ce n'est qu'un avant-goût. Voilà. Amen.
Amen. Merci, Papa Célé. Je vais aussi rapidement donner la parole au pasteur Richard.
Merci beaucoup, papa, pasteur José, pour la parole. Le verset 23 que papa, pasteur Célestin, partageait tout à l'heure, j'étais interpellé par l'expression nous aussi. Donc, il y a, je vais faire, je veux être parmi ces nous-là. Nous, si la terre, les arbres attendent ce jour-là, et que moi, je suis encore tiré, assoiffé à des choses de ce monde, je ne fais pas partie de ce nous. Je fais partie de ce nous quand tous mes désirs, toutes mes aspirations, toutes mes ambitions, en tout cas, sont tirées vers ce jour-là, quand je serai en présence physique glorieuse de mon Dieu. Et je suis interpellé par cette certitude-là. L'apôtre Paul s'inclut lui-même en disant nous, nous aussi. Et nous aussi aujourd'hui, nous pouvons être dans ce groupe-là, mais de moins je dois savoir est-ce que mes aspirations, mes ambitions, mes programmes sont attachés à ce jour-là, ou bien je fournis beaucoup d'efforts, j'investis tout mon temps, toute mon énergie à des choses de ce monde. Merci.
Merci. Papa Thomas, vous avez aussi la parole.
Oui, je suis au verset 18, quand on dit que les souffrances des temps présents ne peuvent pas se mesurer à la gloire réservée aux saints, au ciel. Je vois une similitude avec le Christ, parce que la Bible dit que le Seigneur a dit au Père, si c'était possible que la coupe lui échappât pour que ce soit il y ait un autre moyen de nous sauver, mais pas comme il veut, mais comme le Père veut. Donc le Seigneur est allé mourir à la croix. C'était vraiment une lutte pour lui. Mais Hébreux 12, 1 à 3 va dire que regardant la gloire qui lui était réservée, le Seigneur a souffert la croix. Donc même pour aller mourir pour nous à la croix, il a comparé la gloire qui lui était réservée et le prix à payer. Il a trouvé que c'était mieux de souffrir la croix et aller quand même, parce que la gloire qui lui était réservée à la droite du Père était trop grande pour rater, pour ne pas subir la croix. Donc je constate que malgré les souffrances, les persécutions, les endurances, on nous oublie, c'est beaucoup de problèmes, la vie chrétienne. Mais le ciel, la gloire, le ciel tel que décrit dans le livre d'Apocalypse, le ciel tel que décrit quand Jésus parle du royaume des cieux, l'arbre de vie, la gloire de Dieu, la joie, la fête dans le ciel, l'adoration du Seigneur éternellement. Ces choses célestes, le ciel doit nous encourager, l'enlèvement, ça doit m'encourager de continuer la foi chrétienne, quel que soit le prix à payer. Ça vaut la peine parce que la gloire qui nous est réservée là-bas est bien plus grande que n'importe quel prix à payer, à l'exemple de Jésus-Christ. Merci.
Merci, merci beaucoup, frère. Je me rappelle aussi de Moïse qui avait aussi en vue de promesses que Dieu avait faites à Israël, a préféré souffrir pour un temps avec son peuple plutôt que de rester à la cour royale et jouir du péché pour un temps et manquer évidemment cette glorieuse espérance que Dieu promettait à Israël. C'est vrai, le Seigneur Jésus est passé par là. Et cela, frères et sœurs, c'est vrai, c'est un encouragement pour nous. Quelle que soit la difficulté dans laquelle vous pouvez être en ce moment, la gloire que Dieu vous prépare est beaucoup plus importante, beaucoup plus grande encore. Donc nous sommes appelés, conviés, exhortés à supporter cette douleur de toutes les façons. Nous ne sommes pas seuls. Dieu est avec nous. Le Seigneur Jésus est avec nous. Le Saint-Esprit est avec nous. Alors, quelle que soit la douleur, nous pouvons la triompher parce que nous sommes en Christ et nous sommes victorieux. Merci beaucoup, Papa Thomas. Gaston, vous avez la parole.
Merci, Pasteur, pour la parole. Moi, je suis au verset 25. Je continue sur la même lancée que mes prédécesseurs. Nous l'attendons avec persévérance. Et j'attends cela. Je suis motivé de voir face à face Jésus-Christ, cet homme qui a tant souffert pour moi, qui a versé son sang et qui a accepté que sa vie, de donner sa vie pour que moi, je sois réconcilié avec l'Éternel des armées. Il est parti et il viendra me chercher. Alors ça me motive de voir que les premiers disciples, les Pierre, les Paul et consorts, comment ils ont été persécutés. Et si nous lisons même comment ils sont morts, ils n'ont pas abandonné. Ils ont persévéré. Moi aussi, ça me motive de continuer malgré les difficultés. J'ai lu dans Apocalypse 19, dans la parole vivante, à partir du verset 11. Là-dessus, j'ai regardé dans le ciel ouvert et j'ai vu paraître un cheval blanc. Son cavalier s'appelle fidèle et véritable. Il juge avec équité et droiture. Il combat pour la justice. Ses yeux flamboient comme une flamme ardente. Sa tête est ceinte de nombreux diadèmes. Je suis au verset 16. Sur son manteau, à la hauteur de sa cuisse, est inscrit son titre, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. J'aimerais voir cet homme face à face et être à côté de lui, vivre avec lui, et lui poser certaines questions qui me tiennent à cœur, et pour lui dire combien il est merveilleux. Il m'a promis, il n'y a que la louange. Voilà pourquoi, même s'il y a des persécutions dans ma vie présente, mais je ne vois pas ces persécutions, mais je vois et j'attends cet homme-là, car ce jour-là va venir. C'est ce qui me fortifie. Amen.
Amen. Merci, frère. Vous vous souvenez, dans la méditation d'hier, frères et sœurs, le verset 17 nous disait que si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Et Paul ajoute tout de suite, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. On dirait que le Seigneur a choisi, a décidé que notre glorification passe inévitablement par la douleur, un peu comme la joie de mettre au monde un enfant passe inévitablement par la douleur de l'enfantement. Disons, cette joie de voir le Seigneur face à face, comme le frère vient de le dire, cette espérance d'être avec lui, comme Jean l'a dit, d'être avec lui, de le voir tel qu'il est. C'est quelque chose qui est à notre portée avec la grâce du Seigneur et par la présence du Saint-Esprit, mais ça passe inévitablement par la douleur. Je voudrais, au verset 23, avant de redonner la parole au frère Thomas, revenir un peu au verset 23 sur les soupirs. Les soupirs expriment la frustration que l'on ressent lorsqu'on n'a pas toujours ce qu'on veut, mais surtout lorsque nous sommes dans le feu de l'action et que nous semblons ne pas avoir les dessus sur ce feu-là. Il n'y a pas moyen de l'éteindre, mais nous y sommes où c'est une voie obligée par laquelle nous devons passer. Mais Dieu nous a promis, frères et sœurs, que même si nous devons passer par le feu, il nous a donné sa promesse que nous ne serons pas consumés. Ça veut dire que nous pouvons ressentir la chaleur. Nous pouvons des fois connaître quelques brûlures, mais Dieu a dit nous ne serons pas consumés. Et que même si nous devions passer par les eaux, les vagues effrayantes, la force de la nature qui va faire bouger l'eau ne peut pas nous engloutir. Donc nous pouvons, même dans les eaux les plus profondes et les plus dangereuses, nous savons que Dieu est avec nous. Voilà, ça c'est pour moi une source de réconfort. C'est vrai, nous pouvons soupirer, mais nous savons qu'après les soupirs, la gloire nous attend. Merci beaucoup, frère Bertrand. Papa Thomas, vous avez encore la parole.
Bien-aimé, en lisant le texte, je ne sais pas, mais je semble voir que la nature, elle aussi, attend le retour du Christ, la délivrance. La nature. Mais je ne comprends pas comment la nature peut attendre la délivrance, l'arrivée du Seigneur. Et moi, qui ai l'esprit que l'animal n'a pas, la montagne n'a pas, parce que la nature, c'est l'arbre, c'est la pierre, c'est le sable, c'est l'air. Ici, la nature, c'est comme nous la voyons physiquement. En principe, elle n'a pas d'esprit. Elle n'a même pas d'âme. Peut-être l'animal, mais l'animal n'a pas l'esprit comme moi j'ai l'esprit. Et moi, l'homme, Dieu a soufflé sur moi l'esprit, dans mes narines, l'esprit de vie, et je suis devenu humain. J'attends Jésus-Christ, la nature attend Jésus. Mais je constate que dans le monde, il y a des gens qui n'attendent pas Jésus, qui ne croient même pas au Christ. Mais la nature, elle attend d'être délivrée du retour de Christ. Donc, je suis un peu défié que si la nature va donc juger les hommes, parce que si les gens vont dire que je ne savais pas que je devais croire qu'à ton retour, je ne savais pas que tu étais le Christ, tu devais rentrer. Mais Dieu va dire, mais la nature elle-même, la nature, la nature, attendait la délivrance, et toi qui es humain. Donc, je me pose cette question toute la journée. Comment il se fait que des êtres humains, avec une âme, avec un esprit, avec tous les avantages, l'eau et toute la grâce, la respiration, nous pouvons conduire des véhicules, nous inventons des choses. Comment on est arrivé au point que certains d'entre nous n'arrivent pas à croire à ces dieux, alors que la Bible dit qu'ils n'ont aucune excuse parce qu'ils savent que Dieu existe en Romains 1, rien qu'en regardant la nature de Dieu. Donc, je trouve que c'est dangereux parce que Jésus a dit, si les gens se taisent, Pierre ici, vont crier. Donc, je vois que la nature a la capacité de louer Dieu, d'attendre sa délivrance, à combien de fortes raisons, moi, un être humain.
Merci, frère. C'est un défi. C'est un raisonnement assez logique dans la mesure où Dieu peut nous parler à travers la création. Donc, au point que, c'est vrai, les textes que vous venez auquel vous venez de vous référer dans Romains 1, dit alors que ceux qui ne peuvent pas attendre, ceux qui ne veulent pas attendre, la Bible dit, ils sont inexcusables. Alors si la création attend d'avoir aussi part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu, c'est vrai, je suis défié de ne pas reculer, parce que c'est pour moi que la création entière, en tout cas, attend cela. Alors, il ne faut pas que je manque, parce qu'elle, de toutes les façons, elle va avoir part à cette liberté-là. Pour elle, c'est pas elle qui a péché, elle a tout simplement été soumise à cette vanité, à cette corruption à cause de nous. Donc, elle va participer inévitablement à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. En tout cas, c'est un défi pour nous, mais aussi, en même temps, je vois en cela plutôt un encouragement, de manière que pour vous qui êtes déjà en Christ, pour vous qui croyez, pour vous qui aimez Dieu, qui aimez sa parole, et qui vivez des moments de frustration, des moments de soupir, des moments de douleur, de souffrance, nous sommes encouragés à ne pas abandonner, mais à persévérer. Une jeune sœur dans notre église faisait juste un petit jeu de mots avec le verbe persévérer. Elle se disait, voici comment le Seigneur m'aide à comprendre comment persévérer. Est-ce que j'ai l'impression que lorsqu'on parle de persévérance, comme le papa Gaston en a parlé au verset 25, c'est comme si je suis devant un mur et que j'ai envie de sortir de là et de voir ce qui se passe au-delà de l'autre côté. Mais pour y arriver, c'est comme si Dieu me dit, perce le mur et tu verras. Donc c'est comme ça qu'elle elle tient bon, elle dit, il faut que je perce pour voir ce qui se passe de l'autre côté. Et ce qui nous est présenté ici, notre limitation actuelle, les souffrances, les douleurs actuelles s'interposent entre nous et la gloire que Dieu va révéler à son peuple. Et pour accéder à cette gloire-là, nous devons triompher, nous devons percer, nous devons aller au travers de ces souffrances, même si elles font mal. Nous savons que le verset 18 dit, elles sont incomparables à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Passez-les, vous avez encore la parole.
Oui, merci encore, Papa José, pour la parole. Le verset 26 et 27 parlent du Saint-Esprit et un travail pendant cette attente, pendant cette espérance, le travail des fois que le chrétien ignore. Il y a un travail très très grand dans la vie de chacun, dans la vie de chacune. Il a le travail de soutien, il nous soutient, il nous prend en charge dans nos limitations actuelles ou nos limitations présentes, surtout dans le domaine de la prière. Il travaille énormément en nous. Des fois, même sans ouvrir la bouche. Pourquoi? Parce que la Bible commentée de la parole vivante nous dit le Saint-Esprit, il connaît nos droits et nos devoirs, des fois que nous-mêmes nous ignorons. Alors, en nous approchant de Dieu, il sait efficacement présenter nos droits, présenter nos devoirs, auprès de Dieu. Donc voilà le travail immense, le travail d'intercession que le Saint-Esprit fait et il fait très bien. Il connaît Dieu, il connaît nos faiblesses, il connaît comment présenter les choses auprès de Dieu, des fois même sans que nous les sachions. Amen.
Amen. Merci pour Papa Célé. Ces deux versets répondre à la question numéro 2, qu'est-ce que nous apprenons sur Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit? Et là, d'une manière aussi explicite, nous sommes vraiment heureux de savoir que le Saint-Esprit demeure éternellement avec nous. Hier, le frère Gaston nous a rappelé encore cela dans une référence à un de commentaires qu'il était en train de faire, que le Seigneur Jésus nous a dit à ses disciples qu'il priera le Père et il enverra un autre consolateur qui demeurera éternellement avec vous. Le Saint-Esprit demeure avec nous. Et parce qu'il est en nous, une des activités qu'il fait ici, c'est l'intercession. La Bible dit, on voit à la fin du verset 27, il est dit qu'il intercède en faveur des saints. À la fin du verset 26, on dit qu'il le fait par des soupirs inexprimables. Donc, il prie selon Dieu, hein, le verset 27, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Or, nous savons que l'apôtre Jean a dit que si toutes les fois que nous demandons quelque chose de conforme à la volonté de Dieu, Dieu nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous possédons la chose qu'il nous a, nous lui avons demandé. Mais comme le Saint-Esprit intercède en faveur des saints et selon Dieu, c'est inévitable que Dieu exauce toujours les demandes présentées par le Saint-Esprit. Je vais donner la parole au pasteur Charles.
Merci encore une fois, papa, pour la parole. Le verset 26, la partie B, parle du fait que nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Une bonne attitude d'aller dans la prière. Je n'ai jamais compris, ici aux États-Unis, on a tendance à dire que cet homme sait prier. Je n'ai jamais compris qu'est-ce que cette expression veut dire. Pendant que, donc je ne sais pas, il croit que, selon ce que j'ai, dans ma compréhension, quand il y a des mots clés, des mots spirituels, c'est alors qu'on dit que cette personne sait prier. Mais ici, le verset nous fait comprendre à l'apôtre Paul qui dit aussi que non, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. C'est cette bonne attitude que nous devons développer quand nous allons dans la prière. Nous allons dans la prière comme si nous savons quoi demander. Et peut-être la souffrance que Dieu permet que je puisse traverser, moi je pars pour que Dieu puisse enlever la souffrance. Mais Dieu veut que je puisse traverser la souffrance. Imaginez Joseph en train de prier, « Oh Seigneur, ne permets pas que mes frères me vendent. » Et pourtant, le chemin du Seigneur était qu'il puisse être vendu. Ce verset-là a eu un grand impact dans ma vie de prière, où je permets maintenant à l'Esprit de Dieu de prier à travers ma bouche. Et c'est là, parce que lui, il connaît ce que j'ai besoin, il connaît ce que Dieu veut pour moi, le Saint-Esprit fera un bon travail, et mon travail seulement est de lui céder ma langue et permettre à l'Esprit de Dieu de prier à travers ma langue. Merci.
Merci. Merci, frère. Papa Thomas, vous avez la parole.
Je suis toujours dans 26 et 27. J'ai un témoignage. À l'église où je sers, je suis le chargé donc du ministère de la prière. De la prière. Donc, on m'appelle pratiquement le ministre sur la prière. Et quand j'ai pris cette fonction-là, j'ai commencé par ce passage en disant « je ne sais pas prier ». Alors, les gens étaient déçus parce qu'ils ont dit « mais on disait que lui, il sait prier et tout ça ». Je leur ai dit « non, personne ne sait prier ». C'est le Saint-Esprit, comme le pasteur Richard vient de dire, c'est le Saint-Esprit qui nous aide dans la prière. C'est impossible que nous sachions. Même les disciples en Luc 11, 1 vont trouver Jésus en train de prier et vont lui dire, apprends-nous à prier, comme Jean-Baptiste a appris à ses disciples à prier. Donc finalement, les disciples de Jean-Baptiste avaient besoin d'apprendre de prier. Les disciples de Jésus avaient besoin d'apprendre de prier. Et nous, qui sommes membres de l'Église, le texte dit, nous ne savons pas. Donc Paul a compris. Il ne sait pas aussi prier. Il a besoin aussi du Saint-Esprit. Aucun de nous n'est capable de savoir prier, sinon que assisté par le Saint-Esprit. Et on va voir dans le texte de demain que Jésus-Christ est aussi à la droite du Père en train d'intercéder pour nous. Donc finalement, le chrétien, dans la prière, est assisté par le Saint-Esprit. Dans la prière, il est aussi assisté par le Seigneur Jésus qui prie. Et cela nous donne la ferveur, le sujet, la foi, l'envie de prier. Mais quand nous trouvons la paresse de prier, quand on dit mardi c'est la prière, on ne parvient pas à venir. Vendredi, on ne parvient pas à venir. À l'église, on trouve toujours des excuses dans la vie de prière. C'est mauvais parce que en principe, le Saint-Esprit à nous devait nous donner le courage de prier puisque il est dit, priez pour que vous ne tombiez pas en tentation. Donc la prière, finalement, on ne peut pas s'en sortir sans que nous puissions prier, mais la force, l'intercession, les sujets de prière, c'est le Saint-Esprit qui nous y aide. Mais il faut me demander quelle est la dimension de ma vie de prière. Parce que si le Saint-Esprit est en moi, en principe, Jésus est mon Sauveur et mon Seigneur, je vais prier comme Jésus a prié. Merci.
Merci beaucoup, frère. Ça, c'est clair que ces deux versets-là, 26 et 27, ne veulent pas dire que nous devons rester les mains croisées et ne pas commencer la prière. Non, ils veulent simplement dire que nous devons être assez humbles pour revenir devant le Seigneur et dire nous ne savons pas vraiment si les sujets que nous présentons devant nous sont vraiment... Est-ce que c'est vraiment ce que tu veux que nous puissions présenté devant toi, et même là encore, nous ne savons pas comment exprimer le besoin, les différents besoins, les besoins des frères, les besoins des sœurs, et même nos propres besoins. Nous retournons à Dieu pour être soutenus, pour être aidés. Je voudrais, le temps avançant, voir le verset 28 que nous connaissons tous et que nous récitons bien souvent, mais nous le récitons souvent, c'est vrai des fois pour encourager un frère, une sœur, mais lorsque ce verset est situé à la suite d'une présentation comme la douleur, les soupirs dans lesquels le peuple de Dieu vit, à la suite de la prière, qui est un travail, des fois de longue haleine, alors le verset 28 va prendre tout son sens, parce que il va me dire, si vraiment je crois que Dieu gère toutes choses dans ce monde matériel, dans le monde immatériel aussi, si Dieu est vraiment, si je crois qu'il a le monde dans sa main, si je crois vraiment que Dieu est mon Père et qu'il a toute ma vie, mes destinées sont dans ses mains, alors seulement ces personnes-là qui croient ça peuvent dire, alors peu importe ce par quoi je passe, je sais que Dieu peut concourir cela à mon bien. C'est quelque chose qui m'encourage personnellement, qui m'interpelle, parce que si j'ai vécu du mieux que je peux devant le Seigneur, sans me laisser aller dans la désobéissance, de manière aussi volontaire. Mais si je marche avec Dieu, que je vis une difficulté, je peux me remettre entre les mains de Dieu, me recommander à lui, sachant que lui est en train de faire concourir même ce qui me fait mal aujourd'hui, même la situation désagréable que je vis aujourd'hui, le Seigneur l'a fait passer, l'a fait concourir à mon bien, et je peux absolument lui faire confiance. Et dans la suite, les deux derniers textes, Paul va dire, pourquoi est-ce que j'ai besoin de croire que Dieu fait concourir toutes choses à mon bien? Paul va nous ramener dans l'omniscience de Dieu, parce qu'il va dire que, vous savez, vous êtes chrétien aujourd'hui, vous ne savez pas d'abord d'où est-ce que vous venez, vous, mais Dieu, de toute éternité, avant, en fait, il dit au verset 20, 29, Dieu vous a connu d'avance. En d'autres termes, nous n'existions même pas que Dieu nous connaissait déjà. Nous voyons une illustration dans le livre de Jérémie au chapitre 1. Dieu appelle Jérémie au ministère. Jérémie est encore un enfant. Et Jérémie va peut-être essayer aussi d'esquiver le travail. Il va dire, je ne suis encore qu'un enfant. Et Dieu va lui parler. Il va lui dire, avant même que je puisse formé dans le sein de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais établi prophète de nation. Donc Dieu montre par cette illustration de la vie de Jérémie qu'il nous connaissait bien avant. Donc Dieu nous a connus d'avant, Dieu sait toutes choses. Et ainsi, si aujourd'hui je passe par un temps difficile, ce soir nous sommes là ensemble, nous partageons ensemble. Si Dieu nous fait vivre demain, frères et sœurs, nous ne savons pas qu'est-ce qui va nous arriver demain, mais Dieu le sait d'avance. Il le voit, il sait. Donc, s'il veut nous éviter une difficulté quelconque, il n'a qu'à dire un mot ou nous conduire différemment, nous éviterions en tout cas les difficultés, les problèmes. Mais si nous faisons face à ces difficultés-là, nous pouvons savoir que oui, effectivement, Dieu fait concourir toutes choses à notre bien parce qu'il gère tout. Et quelle gloire de voir cinq épithètes. Les épithètes, ce sont ici des adjectifs qui qualifient des mots, des pronoms qui sont énumérés à partir du verset 29 et 30. Hein, ce que Dieu a connu d'avance, il les a aussi prédestinés. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Et c'est ce qu'il a justifié, il les a aussi glorifiés. Donc, nous avons commencé avec l'idée de la gloire à venir et nous terminons encore avec ces cinq épithètes sur, qui concluent avec la glorification que Dieu réserve à son peuple. Frères et sœurs, qu'est-ce que nous pouvons retenir ce soir lorsque nous disons Amen pour nous séparer? Personnellement, je voudrais que nous retenions que notre Dieu ne nous abandonne pas. Notre Dieu a un plan. Lorsque nous pensons que nous sommes abandonnés, délaissés, nous souffrons, le Seigneur réserve, prépare un poids éternel de gloire à ceux et celles qui lui font confiance. Nous apprenons que le Saint-Esprit de Dieu demeure avec nous dans nos souffrances, dans les difficultés que nous pouvons connaître. Lorsque nous n'allons pas bien, lorsque nous faisons face à l'adversité, la Bible dit que le Saint-Esprit qui demeure en nous, il intercède, il prie, parfois même par des soupirs inexprimables. En d'autres termes, nous apprenons ce soir, un peu comme pour répondre aussi à la question numéro 7, en lien avec le verset 26 et 27, que la prière, ce n'est pas seulement un alignement de belles phrases, mais c'est bien plus que des mots. C'est l'attitude, c'est cette réalité qui est exprimée par le Saint-Esprit dans le cœur de chaque chrétien. Nous apprenons ce soir que Dieu, si nous lui faisons confiance, si nous marchons avec lui, il n'y a aucune situation de notre vie pied inconnu de lui. Bien plus que cela, le Seigneur fera toujours concourir toutes choses à notre bien. C'est ainsi que on peut dire, comme pour Mardoché, le poteau qui avait été préparé par Aman pour qu'il soit attaché, déçu et tué, le Seigneur a transformé les choses et bien des situations qui arrivent. Si nous faisons confiance à notre Dieu, nous pouvons nous réjouir avec le verset 28 pour dire que oui, aujourd'hui on souffre, mais nous savons que le Seigneur fera concourir cela à notre bien. Voilà pour ce soir. Je demanderai à la fin à notre frère Médard. Papa Médard, est-ce que vous êtes là? Papa Médard?
Oui, oui.
Oui, je vous demanderai de prier. Notre frère, pasteur José des États-Unis, ne se sent pas bien. Il a demandé notre prière. Je vous demanderai de prier à la fin pour clôturer et vous n'oublierez pas de prier pour notre frère. Papa Célé, nous avons des annonces.
Oui, nous pouvons juste saluer les frères et sœurs de Québec et d'Alberta qui ont été avec nous et aussi ceux de Missouri et de Massachusetts qui sont des habitués maintenant de méditer en direct avec nous. Nous les bénissons. Merci.
Merci beaucoup. Demain, nous allons terminer ce chapitre 8. Nous lirons du verset 31 à 39, Romains chapitre 8. Versets 31 à 39, et nous aurons les questions 1 et 7 pour nous aider à faire notre méditation. Papa Médard?
Oui. Prions le Seigneur. Grand Dieu, nous voulons te dire merci. Merci pour cette opportunité, Seigneur Dieu, que tu viens de nous donner encore pour écouter ta parole. Merci parce que tu nous as parlé, Seigneur. Merci pour les interventions de chacun de nous, Seigneur. Grand Dieu, si tu nous as donné cette opportunité, parce que tu avais quelque chose à nous dire. Merci, Seigneur Dieu, parce que tu nous apprends encore que tu ne nous abandonnes pas. Tu nous donnes un consolateur. Tu nous donnes celui qui traduit nos pensées, nos prières auprès de toi, Seigneur. Quelle grâce, grand Dieu. Seigneur Dieu, même si nous disons que nous ne savons pas prier, mais toi, tu nous donnes une aide. Papa, merci. Merci pour ta parole. Seigneur, nous voulons réfléchir sur ce que tu venais nous dire. Merci, Seigneur, pour l'intervention de chacun, Seigneur. Nous avons vraiment besoin de toi. De nous-mêmes, nous ne pouvons rien. Nous ne pouvons pas vivre une vie chrétienne qui te plaît. Mais Seigneur, si nous nous abandonnons à toi, toi, tu es prêt à nous aider, Seigneur Dieu. Merci, grand Dieu, parce que tu as fait de nous tes enfants. Et merci, Seigneur, pour ce ministère puissant qui nous aide, Seigneur Dieu, à toujours rectifier nos tirs pour être toujours fidèles à toi. Seigneur, nous confions entre tes mains. Nous confions, Seigneur Dieu, toutes nos familles qui sont représentées en ces lieux, spécialement celles de notre bien-aimé, le pasteur José Mbala qui vient de nous diriger ce soir. Nous te prions, Seigneur Dieu, que tu nous aides à méditer ta parole et à mettre cela en pratique. Et ne permets pas que nous soyons des auditeurs oubliés. Seigneur Dieu, nous voulons profiter de ce ministère
pour, Seigneur, grandir spirituellement, Seigneur Dieu. Papa, tu nous rappelles ce soir que tu ne nous abandonnes pas. Mais parfois, comment nous nous inquiétons? Comment nous sommes vraiment malades? Comment nous avons peur de la vie? Or, nous sommes tes enfants, Seigneur Dieu. Papa, tu ne nous abandonnes pas. Quelle grâce, Seigneur Dieu. Quel encouragement, Seigneur. Merci de me les rappeler. Merci de les rappeler à mon frère et à ma sœur. Seigneur Dieu, nous voulons te prier pour ton enfant, ton serviteur, le pasteur José Ngongo, Seigneur Dieu, qui ne se sent pas bien. Merci parce que tu le visites. Seigneur Dieu, nous voulons toucher ton habit en sa faveur, pour que, Seigneur, de qu'il soit guéri, Seigneur.
Amen.
Oui, grand Dieu, il y en a beaucoup aussi parmi nous qui sont malades, Seigneur Dieu. Nous voulons toucher ta robe. Nous voulons toucher ta robe, comme cette femme-là qui a souffert pendant longtemps, mais qui a touché seulement ta robe. Mais, Seigneur Dieu, c'est sa foi. Merci pour la foi que tu as donnée au pasteur José Ngongo. Merci pour la foi que tu as donnée à chacun de nous, Seigneur Dieu. Pour tous les problèmes, Seigneur, que tu nous demandes seulement d'avoir la foi. Combien de fois tu dis que ta foi t'a sauvé? Combien de fois tu dis que, Seigneur, de ta foi t'a sauvé, Seigneur Dieu? Guéris, pasteur, notre pasteur. Guéris chacun de nous. Oui, Seigneur Dieu, il n'y a pas seulement la maladie, il y a beaucoup de problèmes entre nous, Seigneur Dieu. Mais merci parce que toi, tu es la guérison. Seigneur Dieu, nous te prions spécialement pour le problème du camp biblique. C'est bientôt, Seigneur Dieu, le mois de juillet. Nous avons besoin de l'argent pour l'inscription. Nous avons besoin de transport. Nous avons besoin de l'argent du séjour, Seigneur Dieu. Papa, tu es notre papa. Tu es notre pourvoyeur. Nous comptons sur toi dans tout, Seigneur Dieu. Dans l'organisation, dans le message, Seigneur Dieu. Tu nous as déjà pourvu quelqu'un que tu veux envoyer ce jour-là pour nous parler. Comble-lui, Seigneur Dieu. Donne-lui ta parole, Seigneur Dieu, que nous allons écouter pendant cette période-là. Seigneur Dieu, merci pour tout cela, Seigneur Dieu, que tu vas permettre d'y aller, Seigneur Dieu. Seigneur Dieu, organise avec nos bien-aimés de l'Europe. Organise, Seigneur Dieu, avec Papa Gaston, Seigneur Dieu, qui s'associe à ce groupe, Seigneur. Organise avec nous, Seigneur Dieu. Donne-nous à prier avec foi pour cet événement, Seigneur Dieu, grandiose, que tu permets à chaque année dans notre ministère, le FIMES. Seigneur Dieu, maintenant nous voulons nous séparer. Seigneur Dieu, accompagne chacun de nous. Donne-nous une bonne nuit. Donne-nous, Seigneur Dieu, un bon repos, Seigneur Dieu, pour que demain aussi, par ta grâce, nous puissions bénéficier de la journée, Seigneur Dieu. Nous te bénissons, Seigneur Dieu, encore une fois, pour tout ce que tu as fait. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen.
Amen.
Amen. Bonne soirée, frères et sœurs, et à demain.